Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 20 mars 2010. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Zarma Farai et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici votre documentaire historique que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end... Est-ce que c'est du capitalisme pur et dur parce que ces internautes qui financent ces livres sont des actionnaires, et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut parler de bourse de Francfort ? Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks avec du sport, Ultimatum, Das Creech et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour à vous, bonjour à tous, merci d'être à notre écoute, merci de nous être fidèles et merci surtout d'endurer encore une heure et demie d'émission et de blablaterie absolument insurmontable. Combat de t-shirt, bon d'accord, ok, ça va commencer, cette fois-ci je suis en polo. Bonjour Ultimatum.
Bonjour Descrit, ça
va ? Alors, ce que vous n'avez pas peut-être compris, la plaisanterie, l'extrait de l'interview qu'on a passé juste avant, qui concernait donc l'interview d'un des éditeurs des éditions Sandaway, Lionel Francfort, donc c'est pour ça que je parlais de bourse de Francfort. Et depuis l'enregistrement de cette interview et juste avant la diffusion, a souhaité prendre une autre direction, du moins pour ce qui est de Sandaway. Bonjour du sport.
Bonjour.
Il y a des morts cette semaine.
Eh oui.
Bon, ça va être triste. Ça va être une cata. Rien à voir. Ceci dit, peut-être ce que vous pouvez faire ce soir si vous vous embêtez et que vous êtes sur Toulouse et que vous nous écoutez en direct.
À ton avis, tu crois qu'on va s'embêter ce soir ?
Oh,
est-ce que le mot crunch te dit quelque chose ?
Ouais.
Ah, oui. Il y a le fameux. On va remettre ça. Combat contre les Anglais. Ça fait des millénaires que ça dure. C'est dit, néanmoins ce soir il y a de la tech funk au bikini avec Elite Force, Dilemme Pro Zero, Pro 7 Boons, Lager Boogie Night, Drone et à l'OTAN c'est du rock dub avec Kiff Noise Sound System. Et tout ça, on passera peut-être des bandes annonces tout à l'heure un peu plus tranquillement. Tiens, il y a une Infectious Groove mardi, oups. Rien à voir là aussi avec la musique, mais cette fois-ci plus avec notre émission, puisque qu'est-ce que l'on a retrouvé sur le site du supplementweekend.fr cette semaine. Il y a d'abord le lien avec les éditions Sandaway dont on vous a parlé, qui est dont le principe c'est du crowdfunding, c'est-à-dire que l'on appelle les gens à financer des albums de bande dessinée en leur présentant des auteurs qui sont présentés par des projets qui sont présentés par leurs auteurs et qui ont été prééditorialisés par des gens qui s'y connaissent un petit peu. Donc il y avait 9 projets qui vous étaient présentés à votre sagacité. Des BD dont on a parlé que j'ai voulu replacer à ce moment-là, c'était Félix ou le Grand Nom. Je rappelle que demain on vote pour le second tour des régionales, et c'est pas une raison parce qu'il y en a plus que 2 que pour. Les Princes d'Ambre, donc l'adaptation en bande dessinée. Saint Seiya, ça c'est The Lost Canva, et Thomas a essayé de me convaincre, mais non, je n'y arrive toujours pas.
Ah non, mais j'ai pas essayé. Hein.
The Village, le village, pardon, version soviétique avec une rockstar. La bande dessinée érotique histoire en images, qui est une excellente suggestion, et peut-être que tu l'as vu, c'est un diagramme de Venn sur Denzel Washington. Un acteur qui n'a que 3 registres, lunettes, moustache et chapeau. Avec le crossover total, Malcolm X, voilà. Assez rigolo et plein d'autres choses. Tout à l'heure du sport, lui vous fera une programmation musicale autour de Bob Willis and his Texas Playboys. Et donc là il est à fond et en train de lire Comic Box, donc je n'arriverai pas à lui faire arracher quoi que ce soit. Sympa, merci, vous êtes sur FMR, vous voyez que une fois de
non,
plus.
Non, mais je révise un peu quoi.
Ah non, mais on est là, on est en train de bachoter là.
Ouais.
Les prétextes. On va entamer une sortie de bande dessinée, non
ouais,
mais.
Ouais, c'est ça, amuser la galerie un peu.
Faut arriver, monte.
Merde, mon téléphone.
Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas faite, celle-là. On va commencer ces sorties avec le seigneur des Tiffauges. Tiffauges, c'est une petite ville qui est en Vendée. Mise en scène au scénario par Eric Corbeyran et dessiné par Horn. On les a déjà vus ensemble pour la métamorphose et l'adaptation du roman de Kafka. Cette fois-ci, c'est chez Soleil donc qui sortent leur one shoot et tout commence par une belle après-midi d'octobre bien ensoleillée dans la Vendée. Un enfant disparaît. Rémy n'a été hors de vue de ses parents que quelques minutes. Une année après, toujours à la date du 26 octobre exactement, alors que sa classe visitait le château de Tiffauges sous une pluie battante, le petit Nicolas n'a fait que disparaître du regard de sa prof qu'un court instant. Pourquoi les enfants disparaissent comme ça? Et surtout, pourquoi les retrouve-t-on ainsi mutilés dans leurs organes à part? Y aurait-il un tueur en série incroyablement sadique qui sévirait en Vendée? L'inspecteur de Ré en est persuadé. Et tant pis si sa hiérarchie n'est pas du même avis que lui. Et tant pis si les rêves prémonitoires qu'il fait pourraient se faire porter le soupçon sur lui. Et tant pis si son obsession doit mettre en péril sa vie de famille. Les ruines du château de Tiffauges semblent être liées à cette macabre affaire. Mais en quoi le domaine de Gilles de Ré pourrait avoir un lien? Tiens, encore un qui avait une dent contre les Anglais. Sinon, peut-être parce que sa personnalité hautement contestable inspira la terrible légende de Barbe Bleue. L'histoire commence à monter, la sauce commence à prendre, mais la conclusion déçoit. En fait, j'ai eu la nette impression qu'un élément de l'intrigue manque pour lui donner toute sa corpulence. Cela reste finalement comme ce mystère, insaisissable. Et manque quelque chose pour vraiment nous convaincre. Le travail graphique de Horn peine aussi. Beaucoup de décalques sur photo. Le rendu photoréaliste est malheureusement un peu trop visible, surtout que c'est fait sur du logiciel informatique. Ce qui donne un rendu inégal entre trop réaliste et pas assez pictural. Alors qu'il avait superbement transcrit l'ambiance malsaine de Kafka dans son adaptation de La Métamorphose, on a franchement du mal à rentrer dans le dessin. C'est vraiment dommage. Eric Corbeyran au scénario, Horn au dessin, le seigneur des Tiffauges, c'est chez Soleil, à noter que seigneur s'écrit AI. Sonore mais beaucoup de temps je crois à s'installer, c'est un peu dommage mais elle est présente. Ils étaient 10, Eric Stalner au scénario et au dessin. Le deuxième tome s'appelle Novgorod, c'est sorti chez 12 bis édition. On est peut-être, vous vous souvenez, enfin non, on était tous trop jeunes, de la débâcle de l'armée napoléonienne dans sa campagne de Russie. On retient surtout le nom d'un fleuve, la Bérézina. On a du mal à s'imaginer comment l'armée la plus puissante et la plus moderne d'Europe à cette époque-là a pu se faire autant laminer. Hitler subira la même déconvenue un siècle plus tard, mais pour de toute autre raison. Mais le pire, ce n'est pas la défaite, c'est la fuite. En racontant le destin de Jean-Baptiste Gratien et de ses 9 compagnons d'infortune, Eric Stalner nous en donne une petite idée. Éloignés de l'armée française, c'est seul qu'ils essaient de rattraper des lignes plus amicales. Oubliez les conventions de Genève, les Cosaques vous promettaient les pires douleurs avant de vous tuer avec leur fameuse cravate, c'est-à-dire en faisant passer la langue à travers la gorge. Oubliez les trop jeunes droits de l'homme, après tout ils n'ont même pas 15 ans. Le servage, c'était l'esclavage des paysans et ils étaient encore très vivaces en Europe de l'Est. On trouvait normal de vendre des prisonniers et voilà, on disait les paysans étaient corvéables à merci. D'ailleurs, c'était pas des paysans, c'était des serfs, véritablement des esclaves. Après le premier tome, ils ne sont plus que 6. 3 soldats, un médecin, un infirmier et une comtesse russe blessée aux yeux. On est en hiver, il fait froid, et les deux armées ont appliqué le principe de la terre brûlée. La petite équipe voyage vers l'ouest avec un chariot et 3 chevaux. La moindre rencontre avec un village pourrait leur être fatale. Eric Stahlner adore rendre des paysages naturels. On a déjà vu avec son adaptation de Loup, le roman de Nicolas Vanier. Et même s'il prend bien le pari futuriste de voyageurs, on ne peut qu'être soufflé par la représentation de la forêt qu'il donne. Des grandes étendues sous la neige sont sublimes. Et ça rend du coup des horreurs de la guerre encore plus choquantes. Très simple, ça commence par un suicide. Habitué des grandes sagas, Eric Stahlner nous propose une BD techniquement excellente et à l'histoire passionnante. Ils étaient 6, le titre exprime bien la série. Violent, brutal, ça retourne les tripes et c'est d'une sacrée leçon d'histoire humaine. Ils étaient 6, le deuxième tome s'appelle Novgora, c'est d'Eric Stahlner, c'est chez 12 bis éditions. Je peux vous dire que ça m'étonnerait qu'il y ait 10 tomes, sincèrement.
Le titre c'est Ils étaient 10, pas 6.
Ils étaient 10, oui. Oh punaise. Ouais, enfin au début du deuxième tome, ils sont plus que 6. Et moi je vous le recommande, Eric Stahlner. C'est vrai que on parle souvent des œuvres de Jean-Marc et Eric Stahlner et que des fois il y a des creux hein parce qu'ils ont quand même une production qui est assez soutenue. Là honnêtement, on se prend une très très belle claque. Autre ambiance, Vink, les voyages d'Epao, le cinquième tome est sorti et c'est le dernier. Un matin pour tout horizon, c'est la fin d'une saga qui a plus de 25 ans, qui est sortie chez Dargo et qui est vraiment de la bande dessinée au sens de roman graphique, à mon sens. Epao est la fille de marchand vénitien qu'elle n'a jamais connu. On dit que ses parents ont péri dans une noyade, mais comment dire. Son teint et ses cheveux sont totalement inhabituels dans la Chine impériale. On va dire qu'elle n'a pas franchement la couleur locale et pourtant elle a toujours vécu qu'en Chine. Ce qui fait que quand elle hérite, malgré elle, de l'art martial du moine fou, elle deviendra encore plus un personnage à part. Imaginez des techniques de combat qui vous font découvrir le monde autrement, qui vous donnent une force inhumaine, mais qui malheureusement vous condamnent à la folie. Cette histoire-là est racontée dans les 10 tomes de l'excellente saga Le Moine Fou, justement. Mais un personnage aussi fort qu'Epao ne pouvait pas s'arrêter là. Tourmenté par la malédiction, cherchant ses racines, Vink nous a proposé cette suite où Epao, devenue une superbe femme, n'en restait pas moins une guerrière d'exception, une mine de connaissances et une personnalité extrêmement instable. À la fois fuyant ses ennemis et recherchant ses racines, Epao traverse l'Asie pour rejoindre Venise. Elle a connu une sagesse sur le toit du monde et de nouvelles techniques et décidera de traverser l'Asie pour l'Europe. C'est sur les rives de la Méditerranée que nous laisserons le destin d'Epao. C'est une fin et si on a vraiment beaucoup de regrets à laisser une série aussi exceptionnelle de qualité, Vic nous a fait comprendre qu'il veut tourner la page. Entre les contreforts de l'Himalaya et la Terre Sainte, eh ben, ce sont 4 chapitres qui nous font survoler un continent. Bien évidemment, il y a 1000 et 1 choses à raconter, oui, surtout en passant par les contrées arabes, mais Epao vogue désormais vers un tout autre destin, et la malédiction du moine fou a fait d'elle un être exceptionnel. C'est une légende de la bande dessinée qui s'arrête ici, après 25 années d'enchantement. Une saga malheureusement trop méconnue par un fabuleux conteur vietnamien. Vink a un dessin qui ressemble plus à de la peinture. Si à première vue il peut paraître statique, cela peut sembler contradictoire pour une BD sur les arts martiaux. Elle est pourtant incroyablement belle. Elle fait mieux découvrir et apprécier l'histoire car il laisse une grande place à la vie quotidienne et au décor. Et Pao va rester dans nos cœurs, mais on souhaite que Vink nous offre d'autres voyages extraordinaires. Les voyages des Pao, le cinquième tome s'appelle Un matin pour tout horizon, et c'est chez Dargo. Et c'est la fin d'une série fabuleuse. Changer complètement d'univers et on va se transporter vers l'Amérique du Sud et le Paris de l'entre-deux-guerres, une période complètement folle. C'est pas pour rien qu'on parlait des années folles. Le roi invisible de Gany Jacoupi s'est sorti depuis plus d'un an chez Futuropolis. Je vous expliquerai pourquoi j'en parle après. Arrivé en Argentine pour une tournée prestigieuse, Duke Ellington demande à un journaliste « Where is Oscar ?» Où est Oscar ? On est en 1968 et pour tout le monde, Oscar Allman est un illustre inconnu qui vit dans la misère, une petite chambre meublée. Mais quand ce petit homme insignifiant rencontre le prestigieux musicien, ce dernier lui montre un profond respect et une vraie amitié. Et l'Argentine redécouvre alors un génie musical qu'il avait totalement ignoré pendant 20 ans. Je me suis trompé, pas en 30 ans même. Oscar Allman est né dans la misère, il est mort dans la misère. Pourtant, ses admirateurs furent prestigieux. Louis Armstrong aurait improvisé en étant dans son public. Josephine Baker lui aurait refusé de le laisser partir en tournée avec Duke Ellington. Et Django Reinhardt a appris bien des trucs grâce à lui. Oscar Allman est redevenu inconnu, et pourtant il a littéralement fait exploser le jazz. Son histoire est touchante, et il n'avait aucune raison de sourire tous les jours. Il tenait tant à vivre que sa famille, que sans famille, sans rien, avec d'autres passions, d'autres vies que celle de sa musique, et bien sa musique se devait transpirer la joie. Mettre des guitares à bois, des guitares métalliques, de l'ukulélé, des percussions. Il ajoute en plus à son excellente maîtrise technique la joie et le délire d'un vrai showman. Capable de jouer de la guitare dans son dos, 30 ans avant Jimi Hendrix, de plaisanter indifféremment en français, anglais, espagnol et portugais, orchestrant des jeux vocaux avec son orchestre, revisitant de manière irrévérencieuse et rafraîchissante des standards comme Besame Mucho. Dans les années 30, le tout Paris se presse à ses concerts et aucun artiste international ne pouvait y faire escale sans aller le voir. Puis fut l'occupation et la capitale des Lumières devient franchement malsaine pour un noir argentin. Son exil vers l'Amérique du Sud sera le retour vers l'ombre. Gany Jacoupi nous fait découvrir un très grand du jazz, complètement ignoré, même des spécialistes du genre. Du sport, lui, il connaît absolument pas. Gany Jacoupi est lui-même à la fois auteur de bande dessinée et directeur d'une excellente série de disques, Music Collection chez Discmedi. C'est par ce médium qu'il a décidé de nous faire redécouvrir ce génie oublié. C'est un bouquin qui est sorti il y a un an que j'avais totalement loupé, mais il n'est pas trop tard pour en parler. Et à noter que plus récemment, Jacoupi a adapté son propre roman, Jour de grâce, avec Marc Guessant au dessin chez Dupuis. C'est pour ça qu'ils étaient tous les deux en dédicace la semaine dernière chez Album. Donc pour le coup, merci à Solarus qui a tenté l'impensable, m'offrir une bande dessinée. Gany Jacoupi, le roi invisible chez Futuropolis, c'est l'occasion de redécouvrir Oscar Allman et on a trouvé un morceau de Oscar Allman, justement la reprise de Besame Mucho sur YouTube. Donc désolé pour la qualité du son qui est franchement mauvaise, mais ça vaut le coup, sincèrement.
Bésame mucho, 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 mucho. Que tengo miedo perverte otra vez.
¿Otra vez?
Otra vez, ¿qué hay?
Oh, bésame, bésame mucho,
mucho, mucho.
Como si fuera esta tarde la última vez.
Última vez.
Y bésame, bésame mucho,
mucho, mucho, mucho.
Que tengo miedo perverte otra vez. Bésame, bésame mucho,
mucho, mucho.
Como si fuera esta tarde la última vez.
Esta es última vez.
Pero bésame,
no.
Bésame mucho, morochazo.
Nada, nada, nada.
Que tengo miedo perderte otra vez.
No va más.
Voilà, et on avait dit que c'était la reprise d'un standard, hein, Besame Mucho de Oscar Allman, où tout le monde à l'époque faisait une version qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, je vais dire, lente, langoureuse et tout ça. Et alors heureusement, il y a vraiment plein de choses hein, sur YouTube concernant Oscar Allman, mais c'est vrai qu'il a fait pas mal de reprises, et ça, du sport. On t'a demandé de te taire, à part pendant le passage du 10, maintenant tu le dis, pourquoi?
Ben non, mais tout simplement parce que certainement, il n'a pas dû enregistrer sous son nom beaucoup de choses, et que c'était la seule manière de pouvoir conserver les choses et de pouvoir les restituer. Hein. Ça c'est le lot de pas mal de musiciens en fait hein, de cette époque, des années folles, des prémices hein, de la musique au XXe siècle. Bon, mais si c'était pas enregistré, laisse tomber, t'étais pas connu, même si tu tournais pendant toute ta vie en tant que musicien de spectacle.
Tu disais quelque chose à propos de Hank Williams parce que tu le passes beaucoup hein, dans ton émission le samedi à 14h.
Paradoxalement, c'est pas un paradoxe, mais pour illustrer cet état de fait, hein, il faut savoir que si côté musical audio, on a beaucoup de choses de Hank Williams, on a ses enregistrements en intégralité, hein, même des enregistrements de radio, enfin des petites choses qu'il a faites. Par contre, au niveau image filmée, il n'existe que 2 minutes 35, c'est-à-dire le temps d'un morceau, je me rappelle plus lequel c'est, que vous pouvez voir sur YouTube, c'est les seules images filmées qui existent de Hank Williams. Il n'y a pas d'extrait de télé, de concert filmé, de trucs comme ça. Non, c'est un extrait, c'est enregistré à la télé, je crois. Et c'est Hank Williams avec les Drifting Cowboys en direct. Mais il n'y a que 2:35 d'enregistré de Hank Williams. Alors c'est assez paradoxal hein, quand on connaît le succès qu'il a eu à l'époque. Et maintenant encore un petit peu le succès qu'il a, la mémoire encore qu'on rend à Hank Williams. Mais c'est paradoxal, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'enregistrement à cette époque-là. Faut dire que le bonhomme était assez dur, assez difficile à maîtriser, quoi. Tu vois, à l'époque, il devait passer pour un Gainsbourg, on peut pas contrôler, incontrôlable le mec. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'images filmées non plus, quoi.
Oscar Allman, en tout cas, moi j'ai beaucoup appris, hein, franchement, le bouquin Gani Jacoupi. Le roi solitaire m'a, le roi invisible, pardon. Ça m'a vraiment donné envie de découvrir, musicalement. Oui, parce que, pour ceux qui ne savent pas, sous nos dehors bourrus d'amateurs, de BD ultra violentes, d'explosions, de films de guerre, on en parlera tout à l'heure, et, de séries absolument gore et tout ça. Non, 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 Dusport est un très grand spécialiste du jazz et de la culture, populaire, américaine. Et ça, vous, vous l'avez pour ceux qui nous écoutent sur le, pour ceux qui ne nous écoutent pas en direct, bah vous l'avez en fait en direct sur, sur le samedi à 14h sur FMR et vous pouvez le voir sur un prog musical qui laisse transpirer sur son blog de temps à autre. Donc voilà. Donc très belle découverte. Vas-y.
Oui, j'aurais deux mots à dire sur la, la BD. Donc premièrement, ben je pense que ça doit être assez, enfin ça doit être assez frustrant d'avoir une BD de sur un musicien et qui pas de musique.
Il y a du YouTube heureusement.
Voilà, depuis heureusement.
Depuis tout à l'heure, je passe YouTube depuis la fin du morceau.
D'accord. Et alors par contre, surtout, c'est je passe, enfin je sais pas si t'en as parlé tout à l'heure, mais le visuel en fait sur la qualité picturale, la, la peinture où il est, où il explore vraiment la, la matérialité du truc. Et en plus, t'as, t'as même des cases de rue en fait où il a, il exploite la craquelure de la peinture sur la toile en fait.
Ça, c'est le style de Jacobi. Hein.
Mmh. Bon, bon je connaissais
il
pas.
Il est très 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 talentueux pour ça. Hein. C'est vraiment énorme.
Bon, ben voilà, ben je pense que je vais jeter un œil alors.
Je suis obligé de, parce que je vous explique, j'ai oublié mon ordi, donc je suis obligé de remettre le fond sonore pour faire toute la proc, parce que là on va avoir la pub et tout le reste, et j'ai la direction générale qui est sur mon épaule, donc je peux vous dire que j'ai vraiment intérêt à la passer. Voilà, on parle, on, voilà, maintenant on a fini de parler côté technique, et il est 12h28 et on me fait tes gentils cocos, c'est l'heure, hein? Hein?
Pub.
Oh oui, oui, tout à fait, tiens, hop!
Première pression présente, la 14e édition du festival Garo Rock. Le plus grand festival de musique actuelle du Sud-Ouest est de retour et s'installera comme à son habitude au parc des expositions de Marmande les 2, 3 et 4 avril 2010. Au total, plus de 60 groupes se partageront les 3 scènes du festival. Une programmation aux accents électro, rock, reggae, hip-hop ou encore chansons françaises. Avec notamment Raga Sonic, Alpha Blondie,
De La Soul, Mos Def, The Beat Nuts, Delinquent Habits, Wax Taylor.
Infectious Grooves est de retour à Toulouse pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Le quintet originaire de Los Angeles sera au Bikini le mardi 23 mars pour un concert à s'en découler la plèvre. Écoutez les 5 à 7 de Radio FMR, des places seront à gagner pendant toute la semaine pour le plus grand bonheur de votre portefeuille. Infectious Grooves, le mardi 23 mars au Bikini, en partenariat avec Radio FMR. Toutes les infos sur lebikini.com ou sur radio-fmr.net.
Ah merde, non c'est pas vrai, c'est pas vrai, piégé oui, en plus
C'est pas faute d'avoir fait des signes pendant depuis 10 minutes hein.
Non mais vous êtes gentil quoi, bon d'accord, vas-y Duce.
C'est pas faute d'avoir en plus un conducteur, hein. Taper à l'avance et tout
hein. Ah oui ben voilà, je devrais arrêter de me faire distraire par les mecs derrière. Allez ciao, ouais c'est ça, barre-toi hein. Merci Kinou. Vas-y, du comics, du qui tape,
du Marvel avec le.
Oui, voilà,
numéro 5.
On disait, on parlait d'exposition et de gore tout à l'heure. Bon, on y est.
Ah ouais, on y est. Ouais. Bon, pas tant que ça, hein, quand même. Alors, dans le Marvel Saga, qui est la déclinaison Marvel chez Panini Comics en kiosque, qui raconte plutôt des histoires, on va dire, one shot ou qui s'intéresse plutôt à l'histoire. D'un personnage, ce qui permet de faire des trucs complets quoi, on va dire hein. C'est pas les histoires à suivre telles qu'on peut les avoir dans les Spider-Man et autres publications Marvel Heroes et tout ça. Marvel Saga donc qui vous sort un spécial What If. Alors ça c'est pas mal, c'est sympa quoi, des fois ça donne des trucs intéressants. On connaît quelques What If célèbres hein, pas forcément chez Marvel.
Et si Superman
d'ailleurs, hein,
et si Superman ouais. était arrivé côté soviétique,
voilà,
et tout
enfin,
le reste,
si Magneto n'avait pas été déporté.
Voilà. Bon, là, bah,
et si George Bush Jr. était président.
Justement, c'est un petit peu un exercice de style en fait hein, pour les scénaristes hein, de pouvoir justement quoi essayer de détourner l'univers Marvel pour justement essayer de placer des histoires qui sont un petit peu contradictoires, qui n'ont plus grand chose à voir avec l'univers Marvel. Mais qui permet justement quand même de garder c'est ça justement le paradoxe, qui permet de garder justement quand même une continuité au niveau des personnages tels qu'on les connaît. Alors tout d'abord dans la série House of M, on nous propose et si la sorcière rouge avait dit plus de pouvoir, c'est-à-dire que la sorcière rouge d'un seul coup dit plus de pouvoir et plus aucun super-héros ni super-vilain n'a aucun pouvoir. Tu vois, ils redeviennent des êtres humains, enfin des êtres normaux et tout quoi. Et bon, mais la vie continue.
Tu veux dire qu'ils vont devoir payer leurs impôts?
Alors bon, t'en fais pas, ça se passe pas comme ça, ça se passe de manière vachement plus violente. Il y a également les Fantastic Four avec et si les nouveaux Fantastiques étaient restés ensemble, le Spider-Man et si Mary Jane était morte à la place de Tante May. Du Secret Wars, il y a et si Fatalis avait gardé le pouvoir du Beyonder et Captain America avec si Iron Man était mort à l'issue de la guerre civile, c'est-à-dire le contraire quoi.
Tout
tu
ça,
vois.
Tout ça dans un même.
Voilà, ouais.
Envoie.
Ah non.
Attends, j'ai pas fini de le lire. Donc tout ça, c'est dans le Marvel Saga numéro 5, hein, spécial What If, House of Men, Fallen Son, Fantastic Four, Spider-Man et Secret Wars.
Et toutes ces histoires parallèles, elles se suivent. Ça, c'est numéro 5, donc il faut avoir lu les autres avant.
Ouais, ça se suit. Et ils ont supprimé juste l'histoire originale.
qui est l'histoire de une autre histoire de Spider-Man, mais qui n'avait pas vraiment de rapport. C'est-à-dire que bon, bah là, ça commence et tout claque. On suit tout le truc au fur et à mesure avec toute la pratiquement toute la galaxie des héros Marvel. Passons encore, bah pratiquement, c'est encore du, on est encore dans le domaine de Marvel, sauf que,
mais
sauf
non, que c'est du cinéma là.
Sauf que, bah non, justement quoi. Sauf que, eh ben c'est pas vraiment
la BD
du
adaptée.
C'est la BD adaptée. Non, et c'est dessus, c'est collé dessus. Et j'avais décidé justement quoi, je m'étais dit bien, je vais le faire en direct, en pleine émission.
Il enlève
je
la pastille.
Je vire ce putain de stickers à la con.
Ça fait chier.
Que
la BD
ça fait
qui a
chier
inspiré
quoi.
Le film, ouais.
La BD qui a inspiré le film, on croit rêver. Pas tant que ça en fait, quand on connaît un petit peu l'état d'esprit de Mark Millar, qui a bien compris le système. Hein, on rappelle un petit peu. Le parcours vite fait du bonhomme, c'est lui les Ultimates, c'est lui Old Man Logan, c'est lui Wanted, attends, qu'est-ce qu'il a encore fait ce brave homme, bon ça va, Civil War bien sûr, hein, le crossover de Marvel qu'il a imposé comme étant un des grands scénaristes de chez Marvel quand même, hein, il faut pas oublier. Mais par contre, il a fait plusieurs justement Creator Own où il est passé par d'autres petites maisons d'édition, les petites maisons d'édition style pas Vertigo mais Image Comics et des petits trucs comme
et
ça.
Et les labels indépendants qui ont été faits par les anciennes stars du domaine.
Voilà. Et bon, à chaque fois, lui, de toute façon, il a pas le même état d'esprit qu'Alan Moore et tout. Ouais, on va dire, si on tourne un film d'après mon œuvre et tout, ça va être dénaturé, c'est pas bon et tout. Lui, il s'en fout. Il dit ouais, ramène le cash et puis rien à foutre quoi. Tu fais pratiquement ce que tu veux. Il y a pas de problème et tout. Et là, bien, il monte le coup avec John Romita au niveau de la bande dessinée, mais il monte le coup en parallèle pour pouvoir produire le film pratiquement en même temps, ce qui fait qu'à un moment donné de l'écriture, ils écrivaient en même temps la bande dessinée et le scénario du film. Donc le film va sortir donc le 21 avril, c'est-à-dire dans un mois pratiquement, et le tome 1 donc de Kick-Ass sort par Mark Millar et John Romita. Un volume 1 dont on a déjà eu les premières pages, les 20 premières pages dans le comic box qui est encore en kiosque actuellement, et qui sont également l'illustration qu'on a pu voir au ciné dans les bandes annonces, hein, là, dans les espèces de petits trucs et tout. Tout d'abord juste la descente du super-héros, puis après les images plus violentes avec la fille et avec Big Daddy, hein, c'est-à-dire l'autre super-héros. Mais bon, on va dire que ça déménage, c'est carrément impeccable, c'est ce que je vous avais dit, hein, à propos des premières images, des premières BD qui étaient sorties dans le comic box, c'est carrément excellent. Et une fois que ça s'arrête, on se dit putain merde, il va falloir attendre combien de temps pour les autres tomes. Un petit peu le même symptôme que The Boys, tu vois. Tu te dis merde, putain. Là, c'est quand même assez volumineux, c'est-à-dire que bon bah il y a quand même pas mal d'histoires. Alors l'histoire est simple, hein, c'est l'histoire de d'un jeune geek qui va au collège et qui a bien entendu une vraie vie de geek. Hein, y a pas de problème, d'adolescent américain. Ok, hein, dans la BD, dans les jeux vidéo, qui se mettent des pornos sur internet, enfin bref, ok, et qui décide d'être super-héros. Et c'est là où on se dit, bon, au départ, l'idée est un petit peu bateau, on a peut-être déjà vu ça quelque part aussi, mais par contre, eh bien, c'est le traitement que va imposer Mark Millar à la façon dont va se dérouler l'histoire de ce jeune garçon Dave Lebowski qui s'appelle et qui va devenir Kick-Ass. D'ailleurs, remarque que bon, bah, c'est un des côtés humoristiques de la série, c'est qu'il met vachement de temps à choisir son vrai nom de super-héros.
Oui, parce qu'après ça reste, alors il faut bien.
Ouais. mais par contre, bon, il y a une mise en abîme qui est vachement intéressante parce que c'est lui qui est vraiment fondu de jeu et tout. À un moment, d'ailleurs, il a une réplique vachement intéressante où il dit mais pourquoi tout le monde préfère ressembler à Paris Hilton plutôt qu'à Spider-Man ? Alors tu vois, rien que dans la question, t'as beaucoup de choses et tout qui explique qui est le personnage. quelle est sa motivation, quel est son truc principal, parce qu'en fait c'est même pas pour se faire du pognon et tout, c'est juste pour être un super héros et sauver les gens, aider les gens, enfin tu vois, un espèce de truc noble et tout, mais qui est complètement porte-nawak par rapport au monde dans lequel il évolue. Et il y a cette espèce de mise en amie où on se dit bon bah ok, bah, on peut être exactement dans le même cas que lui. Il va au fur et à mesure de son apprentissage, on va dire, très douloureux d'ailleurs. Vraiment très très douloureux. On peut signaler que justement quoi, il y a toujours cette espèce de retrait par rapport à l'histoire vécue par le personnage, mais également le fait de rentrer dans le jeu en se disant ouais, mais on peut se mettre à la place de ce mec là quoi, sans trop de problèmes quoi. C'est assez intéressant de ce côté là. Alors ce qu'on peut voir dans la bande dessinée, c'est-à-dire dans ce premier tome, par rapport à ce qu'on voit la bande-annonce du cinéma, c'est un petit peu différent et tout. Là, ça va quand même vachement plus lentement, quoi. Mais justement, c'est pour ça qu'on se dit, ok, quand ça commence à dépoter grave vers la fin, on se dit, bon, bah ok, c'est pas mal, c'est sympathique. Ils vont avoir du mal à transcrire ça à l'écran parce que bon, la violence est vraiment
graphique.
Il y a beaucoup de sang. Hein, la violence est bien graphique, mais vraiment très très bien rendue. Par contre, à l'écran, je sais pas ce que ça va donner. Je pense que ça va quand même être un petit peu édulcoré parce que sinon, ça va être très difficile de montrer ça à des ados quand même. Enfin, du moins vu les lignes de censure. Mais bon, ok, c'est vraiment du super haut de gamme et tout. Et là, on attend la suite avec impatience. Qui casse donc Mark Millar et John Romita Jr. Et c'est sorti chez Panini Comics, en plus pas cher.
Je me fais punir, on me dit pour la peine tu repasses une coupure pub puisque tu as zappé une, donc dont acte.
Imaginons, je suis sur Internet Explorer 8, j'active la navigation privée et là j'ai accès en toute discrétion à des jeux flash, du streaming, du ORS, du porn, tu peux même télécharger des photos d'enfants en train de se faire le des profiteroles entre les fesses. Je suis sur PC, mais... Chut, c'est un secret.
Dis quoi à la fin, je suis sur PC, mais...
Chut, chut, c'est quoi c'est.
The audience is listening, la la la, son THX, il y a 24 surprises, oh non, oh
non. La chronique cinéma vous est présentée en 3D explosive par Ultimatum.
Allez, aujourd'hui on va parler surtout de chèvres avec les chèvres du Pentagone. Alors le titre original c'est The Man Who Stared a Ghost. A goat. Alors ça veut dire quoi?
Le mec qui regarde une chèvre.
Qui regarde. Esther, c'est observé, c'est.
Scruté,
enfin, voilà, c'est voilà. Ça, ouais. Épier.
Ok. Alors, il s'agit d'un film de Grant Heslov avec, excusez du peu, George Clooney, Ivan McGregor, Jeff Bridges, Kevin Spacey, Robert Patrick, Stephen Lang et J.K. Simmons. Allez, ça fait du lourd. Bon, certains ils font une petite apparition par rapport à d'autres. Robert Patrick, moi mais c'est Robert Patrick. En fait, il a pris au moins 20 kilos depuis qu'il a arrêté X-Files. Mais vraiment, il a un visage carré maintenant. Alors qu'avant, il avait un bâton en fait en place du visage avec les oreilles qui décollaient. Mais là, c'est vraiment carré, c'est en rond, c'est voilà.
Ah oui, non, mais il avait déjà pris un petit peu de forme, on va dire. Je l'avais vu dans un truc assez récent où il avait pris un petit peu plus de forme par rapport au visage émacié qu'on lui connaissait au départ. Hein.
Oui. Alors, l'histoire. Désemparé après une rupture amoureuse, le journaliste Bob Wilton campe au Koweït dans l'espoir d'entrer en Irak et courir la guerre. Parce qu'en fait, c'est un petit défi qu'il s'est posé à lui-même. Allez, je vais montrer à mon ex que je suis pas une lopette et que moi aussi, je peux aller courir la guerre en Irak. Sauf que là, bah, il connaît personne, en fait, et il campe à l'hôtel toute la journée. Et il commence à péter les plombs, mais à un moment donné, il rencontre Lynn Cassady, qui est dans le fameux hôtel, qui lui révèle qu'il est un ancien agent spécial de l'armée américaine, adepte de la parapsychologie, qui est une discipline utilisant des dons spéciaux pour neutraliser ses ennemis pacifiquement et en harmonie avec la nature et parfois sous l'emprise de LSD. Alors, oui, déjà l'affiche, t'as tous ces mines de en position de super-héros, on va dire, de tous ces acteurs qui sont sérieux, qui scrutent le lointain avec en haut, tu as les crédits. George Clooney, Van McGregor, J. Bridges et la chèvre. Et là, t'as une chèvre derrière eux. Alors, je te dis, mais c'est quoi ce truc? On se croirait chez Ben Stiller, Tonnerre sous les tropiques et tout. Ben, en fait, bon, évidemment, il y a du loufoque. Bon alors les gens, enfin les personnages, ils croient dur comme fer que leur discipline c'est ça qui va sauver l'armée, parce qu'en fait le gars qui a découvert la discipline, donc c'est le personnage interprété par Jeff Bridges, tu croirais sorti de The Big Lebowski, il a le même look et tout, il est devenu hippie, il dit tiens, ce serait bien désarmer l'ennemi sans tuer, parce que c'est pas bien de tuer, alors il est en communion avec la nature, les femmes à poil, tout ça, c'est génial. Et finalement, donc t'as du loufoque. C'est pas le loufoque qu'on attendait en voyant l'affiche et en voyant la bande annonce. C'est-à-dire que c'est débile, mais les personnages quelque part sont débiles, mais le film ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est un film qui se met à la hauteur des personnages déjà. Alors déjà à la base, c'est inspiré de faits réels, c'est d'après un bouquin de journaliste, et ça s'inspire de vraies expériences menées par la CIA des années 60 aux années 80 sur justement essayer de par des moyens détournés une espèce de d'hygiène de vie, ou enfin hygiène c'est un grand mot, mais ou des dons spéciaux, essayer de traverser les murs, essayer de d'arrêter le cœur de hamster à distance et tout par la seule force de la volonté.
Waouh.
Voilà. Alors
cœur de hamster. Waouh. Ah les ennemis vont avoir peur.
Ah oui, alors là, les hamsters, c'est... voilà.
Général Patton. Hamster a fait une crise cardiaque, Hitler est trop fort.
C'est fini pour Mission G.
C'est ça. Et donc, voilà. Donc le film, c'est pas comme, présenté comme un film débile, c'est un film sur des soldats qui sont pas désœuvrés à la Jared ou le quotidien de soldats comme des mineurs, c'est plutôt des soldats d'une espèce de frange spéciale de l'armée qui sont un peu livrés, pas livrés.
Ouais, on peut parler de spécial, ouais.
Voilà. tu vois, c'est les personnages, à un moment donné, pendant tout le film, tu sais jamais sous quel pied danser parce que. Tu vois qu'ils ont des dons, ils le prouvent. Tiens, par exemple, George Clooney joue à pile ou face, il gagne tout le temps. Ils ont un pouvoir de déduction comme ça qui vient de je sais pas trop où. Ils l'ont appris l'apprentissage du gourou de Jeff Bridges. Mais finalement, le fait qu'ils aient vraiment des vrais pouvoirs ou pas, tu t'en fous en fait. Parce que tu vois par A plus B qu'ils ont des pouvoirs, mais c'est traité comme un détail. C'est comme s'ils buvaient du café. C'est pas, il va pas avoir de ralenti avec tiens, je vais essayer de disperser mes nuages avec mon regard. Donc le nuage il se disperse. T'as un plan où le nuage se disperse. Mais finalement, c'est traité comme si c'était expédié et tout. Non, c'est normal. Et finalement, le cœur du truc, c'est juste des... C'est, on dirait des gamins, en fait, qui jouent à la guerre sans blesser. Et alors, Jay Bridges, il est complètement à la ramasse. C'est un gourou qui est passionné par son sujet. Il a affaire à... Enfin, il y a l'armée qui lui demande... on voudrait... savoir où est emprisonné l'otage. Alors il demande à George Clooney, ah ouais il est là-bas et tout, oh ouais je suis fier de toi mon gars et tout, et en fait il était là-bas. Et une autre fois il va faire appel à un autre gars de son unité, et puis le gars il dit tu vois pas, alors il y a Jeff Bridges qui fait son rapport à son supérieur, il dit le gars il a dit il faut demander à Angela Lansbury. Alors après t'as un cut, et puis le supérieur il revient, bon on a demandé à Angela Lansbury, et alors c'est pas où il est le général. C'est juste des situations comme ça, tu sais très bien comment la scène va finir, parce que c'est évident que l'actrice de Arabesque ne sait pas où est le général, mais en fait il prend la peine de montrer le gars qui dit qu'elle sait pas où il est.
Et en fait, quelle armée a mobilisé les moyens, une liaison satellite et tout pour lui poser la question.
Ouais, ou ils l'ont appelé, mais en tout cas au début t'as un George Clooney qui est vraiment dans la phase Burn After Reading des frères Cohen où il est un peu allumé, mais finalement les acteurs le jouent premier degré aussi. T'as Kevin Spacey qui est un allumé aussi, à un moment donné il fait une pomme dévastatrice, parce qu'en fait c'est une technique qu'ils ont appris d'un vieux maître chinois où tu mets une tape avec la paume de la main sur le front, et puis en fait c'est censé te provoquer la mort. Bon, même si on s'en fout, il y a des gens qui meurent 20 ans après, mais c'est la paume de la main qui a fait ça. Voilà, c'est un exemple des trucs que tu sais pas si c'est vrai ou pas dans le film, mais finalement tu t'en fous. Et alors Kevin Spacey, il fait du premier degré. Jeff Bridges, bon, c'est le seul personnage qui soit véritablement haut en couleur, où il est vraiment cartoon. Mais les autres, en fait, ils sont, ils disent oui, on a des pouvoirs, mais c'est comme ça. C'est pas, il va pas dire, un regard halluciné pour dire ouais et tout. Non. Et finalement, le film s'attarde surtout sur les faillures des personnages. Par exemple, George Clooney, il est obsédé par le fait qu'à un moment donné on lui a demandé d'essayer de tuer une chèvre à distance, et c'est ça qui donne le titre au film. En fait il a tué la chèvre et puis il est en repentance depuis, il se pardonne pas d'avoir tué une chèvre alors que sa discipline lui inculque qu'il faut pas tuer. Voilà, donc c'est que des gamins en fait qui sont un peu blessés, qui s'entendent pas vraiment entre eux des fois, ou c'est vraiment une cour de récré géante. mais c'est pas traité sur le ton de la débilité, c'est juste un truc et voilà que c'est admis et ça passe presque au second plan. Et alors finalement voilà, s'il faut pas aller voir le film comme vraiment de la grosse farce, mais tu passes quand même un bon moment parce que tu ris franchement pendant tout le film, mais pas du rire gras, c'est à mi-chemin entre l'ambiance bon enfant et le décalage parce que les personnages y croient à fond et à un moment donné t'as George Clooney qui est en train de conduire et puis il est en train de fixer le ciel et puis il voit le McGregor, le journaliste, il lui demande mais qu'est-ce que vous faites, bah j'essaie de chasser les nuages, et la scène elle est super longue, elle fait 2 minutes et t'as George Clooney qui a un jeu de regard comme ça et t'as pas voilà, c'est une scène qui passe et puis après ça passe à autre chose, mais voilà, en tout cas c'est une bonne comédie à recommander qui échappe un petit peu au tout venant des comédies un peu débiles ou loufoques, et donc voilà, Les Chèvres du Pentagone de Grant Heslov avec George Clooney, Ivan McGregor, Jeff Bridges et toute la clique, et donc c'est un nouveau traitement sur le quotidien de soldats finalement qui sont vraiment désemparés par rapport au terrorisme, ils ont plus d'armes et ils essaient de faire avec ce qu'ils ont en essayant d'être un peu le parent pauvre de l'armée, donc voilà, des gars qui font pas de mal à une mouche, enfin à des chèvres, mais bon voilà, on vous le recommande en tout cas.
Donc toujours au cinéma je suppose.
Oui tout à fait.
Ouais, il était annoncé depuis un certain temps d'ailleurs. Bon, étonnamment. Break musical, Hot Chip, I Feel Best, Better. Ils étaient mardi dernier au bikini, ils ont tout arraché, c'était génial. La veille, ils étaient 150, ils avaient 150 spectateurs à Clermont-Ferrand. Nos bikinis, heureusement, on a dépassé le millier et franchement, ça a surtout leur dernier clip, c'est une grosse parodie des boys bands. Et qu'est-ce qui arrive quand les boys bands rencontrent un mec qui se prend pour un des personnages Doctor Who?
So longest night. We're meeting arms to arms. Nothing is wasted, a life is worth more. Heaven is nowhere, just look to the stars. There is a day that is yours for a mess. Everything's nothing, and nothing is all. Nothing is wasted, a life is worth more.
Cheap, I feel better, extrait de l'album One Life Stand. Oui, je sais, bon, ça va, foutez-moi de ma gueule encore. Ah, juste pour vous dire, par contre, rapido, puisqu'on n'avait pas fait l'agenda en début, que tout à l'heure sera en dédicace François Duprat pour Il y a du monde au Portillon, ça sort chez Carabas, ça sort le mois prochain. Donc tout à l'heure, il est en dédicace à la librairie de légende à Toulouse, mais ce seront 50 exemplaires en avant-première. C'est le premier, c'est le pré-tirage en fait, de l'imprimeur, c'est-à-dire celui qui sert de test, enfin pour vérifier que tout va bien. C'est celui-là qui sera mis en vente tout à l'heure à Terre de Légende. Donc l'auteur va le découvrir tout à l'heure, même l'éditeur ne l'a pas vu en main. Il y a du monde au Portillon, c'est de François Duprat. Le 10 et le 11 avril sera le TGS Wanami, l'édition un peu plus recentrée autour du Japon du Toulouse Game Show, un peu largement plus recentrée donc là-dessus. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine si tout va bien, et 7 et 8 et 9 mai, c'est le salon de la bande dessinée. Mais en attendant, du sport, porte le crêpe noir.
Ouais, on va mettre un bandeau comme les footballeurs, tu sais, quand il y a un décès et tout. Parce que bah
les footballeurs. Ah oui, les brassards noirs,
ouais,
tu veux
ouais,
dire
quand ils des brassards et tout. Quoi. Parce que ça tombe comme à Gravelotte avec les plus connus. Alors Roger Gicquel, bien sûr. Hein, alors Roger Gicquel, c'est marrant parce que tout le monde ramène à cette fameuse phrase qu'il avait prononcée en ouverture d'un journal, La France a peur. Alors que Roger Gicquel, bon, ça a quand même été le présentateur du journal télévisé pendant, enfin principal du journal télévisé sur la Une pendant pratiquement 10 ans, hein, c'est-à-dire l'espèce de PPD à l'époque, hein, parce que il n'y avait pas vraiment de concurrence, on va dire, de l'autre côté, et que les chaînes étaient encore toutes publiques, donc on se partageait le boulot, on va dire, hein, enfin disons, c'était décidé en haut lieu, mais il y avait le gros journal télé, c'est sur la Une de toute façon, et Roger Gicquel, lui, il a quand même tenu pratiquement 10 ans, hein, je pense, quoi, en étant le pape, donc
j'essaie de retrouver l'extrait dont on avait parlé
du 20h,
mais je ne sais plus. Alors on me dit que il a jusqu'à la fin des années 70, et après il n'indique pas effectivement les dates, mais il a duré 10 ans, et ensuite
non.
Il a fait une émission régionale.
Mais par contre ce qui se passe, c'est que il faut replacer les choses dans leur contexte, en fait, quoi. C'est que quand on indique quand on prononce cette phrase, hein, de Roger Gicquel, la France a peur et tout, c'est quand même un petit peu le symptôme de ce qu'était l'époque et de ce qu'était la société à l'époque, hein, qui vivait quand même dans un univers un petit peu plus clos, un petit peu plus confiné, où les nouvelles traversaient quand même vachement moins vite les continents et tout. Il y avait des gens qui n'avaient pas encore le téléphone, enfin bon, plein de choses comme ça. Et donc, de ce fait, ça prenait vachement plus de pouvoir. Et en fait, c'est plus l'image qui a été que ça en a donné, en fait, de savoir qu'un présentateur pouvait avoir autant de pouvoir par rapport aux gens qui regardaient la télé, hein, savoir la France a peur et tout, et du coup
alors que Maître Eolas a reposté justement la fameuse vidéo en question, cette fameuse introduction qui tenait un peu d'éditorial là-dessus, il dit qu'il fallait un courage énorme, parce que ce qu'il disait c'était justement l'inverse, c'est la France a peur, mais il y avait aucune raison de céder à la peur.
Voilà,
il était
ça,
très très bon.
Exactement.
Là puisqu'on en a parlé du sport, je voudrais parler en fait l'introduction qu'il a passée, puisque Maître Eolas l'a mis en avant. C'est le JT qu'il avait ouvert en fait Le 28 juillet 1976, pour l'exécution de Christian Ranucci, c'était un meurtre qui était absolument ignoble. Hein. Un jeune garçon
c'est
qui a tué une fille.
L'affaire du pullover rouge.
Voilà, exactement, qui était absolument ignoble. Et Roger Jiquel fait un laïus. Alors à l'époque, faut pas oublier que à l'époque, les trois rédactions des trois chaînes, il y a une ligne directe avec le ministère de l'information. C'est le ministère de l'information qui dicte les ordres. Et lui, eh ben, il fait un laïus contre la peine de mort, sans essayer de réduire justement les crimes. Donc on va en écouter un extrait, c'est cette voix sentencieuse et en même temps eh ben, cette maîtrise extraordinaire de l'écrit.
Christian Ranucci, âgé de 21 ans, il a été exécuté à 4h13 ce matin à la prison des Baumettes à Marseille pour l'assassinat d'une petite fille qu'il avait commis à 19 ans. Il a été exécuté selon la loi, selon l'article 12 du Code pénal. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. L'article 15 du même code pénal nous fait interdiction de recueillir et de diffuser la moindre information relative à l'exécution. Mais, vous le savez, depuis que la guillotine existe, il n'a pas manqué de témoins, en dépit de la loi, pour dire l'horreur du supplice. Voici comment cela se passe en France, un des rares pays développés à appliquer encore la peine de mort.
On va pas le passer en le reportage qui est après, mais ouais, c'est à le re-regarder tout ça, la mise en scène et tout, c'est quelque chose dont on n'a plus l'occasion de voir justement dans les journaux actuels où il faut que ça aille très vite et où les sujets doivent pas dépasser plus de 2 minutes. Donc, Roger Jiquel, c'était.
Et si tu regardes bien en plus, c'est-à-dire que il est à Roger Jiquel, mais en fait, comme c'est un truc multiple, les autres intervenants sont là, ils sont déjà installés et tout. Il y a souvent le gros plan.
Et on voit que c'est un tout petit studio.
Le présentateur principal, mais on voit que c'est un petit studio et que les mecs qui sont là autour et tout, qui vont intervenir l'un pour le sport, l'autre pour un sujet plus généraliste ou plus spécialisé, hein, mais ils sont déjà là et tout. Donc, ça forme plus l'équipe plutôt que les 20 heures qu'on a maintenant, je veux dire, sur TF1,
ouais, parce
2,
que
où il y a uniquement la personne qui est sur le plateau et tout le reste, c'est les technicos, quoi.
Quand on voit les vidéos, on se dit, mais le plateau, il doit pas être plus grand que celui du studio de Radio FMR, qui déjà tient à la limite du placard à balai et demi. Et il y a le fond bleu qui est derrière parce qu'il y a un manque de recul, donc on fait des incrustes derrière. Donc c'est Yves Mourouzi à côté avec ses déconnades qui faisait dans le même JT à la même heure plus tard. Ça avait rien à voir techniquement.
Ensuite, la mort de Peter Graves également.
Oui.
Jim Phelps est décédé, donc Peter Graves, qu'on avait connu, qui est un enfant star, en fait, on peut l'appeler comme ça, bien que le film à l'époque n'ait pas eu autant de succès que ça, et qu'il a fallu qu'il passe par une carrière, on va dire, d'acteur, enfant acteur, tout à fait normal, mais pas dans la lumière, c'est quand même lui le petit garçon qui nique la gueule de Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur. Hein, c'est lui le petit garçon, le blondinet là et tout, quoi. Hein. Donc sa carrière, il la commence très jeune, mais il faut quand même qu'il attende. Le Mission Impossible.
Ah oui, pardon, tu voulais que je monte.
Le Mission Impossible, en plus avec vachement de chance, parce que il faut savoir que il intervient à partir de la deuxième saison, vu que dans la première saison, eh bien c'est Steven Hill qui tient le rôle un petit peu du manipulateur, de celui qui gère un petit peu le truc, qui transmet les ordres de la Mission Impossible Force, et qui réunit son équipe pour accomplir cette fameuse mission. Peter Graves, donc, qui apparaît dans la saison 2 et qui va rester comme ça tout au long de la série, et qui sera également le seul membre originel dans Mission Impossible 20 ans après, je crois que c'est comme ça s'appelle en français.
20 ans après,
où on retrouve par contre quelqu'un de la famille, c'est-à-dire Philip Morris, qui n'est autre que le fils de Greg Morris, le Black dans la série originale.
Qu'on voit dans 2 épisodes d'ailleurs de 20 ans après, mais bon, la série est pas franchement...
C'est marrant parce que la première série,
moi j'aime bien quand même,
à base de bandes magnétiques, de bricolage et tournevis, alors que la nouvelle série c'était que des gadgets high tech avec des reconnaissances d'empreintes digitales avec des lasers.
Parce que le truc du remake n'a rien à voir avec l'esprit de la série originelle, qui est quand même la mise en place d'une manipulation. Une scène qui va permettre au dénouement de l'aventure, et donc ça emprunte un petit peu les codes du cinéma, du théâtre, à savoir d'abord on écrit un scénario, ensuite on cherche les personnages C'est pour ça qu'à chaque début de générique, eh ben, il choisit des photos. Donc, il fait le casting, en fait, quoi. Et plus ce traitement qui est dans la série originale, qu'on retrouve pas dans la série 20 ans après, parce que c'est plus une série d'action pure et dure, on va dire. Oui, hein, oui. Tout simplement, quoi. Avec les protagonistes ad hoc, quoi. Donc ça passe. Peter Grebs également, qui l'a également tâté au cinéma, hein, ça bien entendu, hein, avec Y a-t-il un pilote dans l'avion pour le plus connu.
Oui, c'est vrai que pour certains, ce sera avant tout le pilote de ZAZ. Hein.
Voilà, c'est ça. Non, mais bon, ok.
Tu es déjà allé dans une prison turque. Réplique hallucinante venant de lui.
Il y en a d'autres qui sont décédés, dont Fess Parker. Alors c'est pas Fess comme tu l'as marqué là, c'est-à-dire.
Je sais pas, c'est comme.
Comme la foi, c'est Fess, F-E-2-S, hein, c'est comme ça que c'est, c'est les États-Unis. Et lui, il était vachement connu pour, son interprétation dans les films Disney des années 50 et 60, de Davy Crockett.
Ah, oui.
C'est lui, Davy Crockett. Donc, il a fait également Daniel Boone et pas mal d'autres choses et tout. Et il s'est éteint, donc, il y a cette semaine, Fess Parker. Et il était quand même assez âgé, hein. De toute façon, quoi, le mec, ça va, il a quand même bien vécu. Ce qui est pas tellement le cas de Corey Haim, qui est également décédé cette semaine. Corey Haim, qu'on avait connu dans Génération Perdue, je sais pas si tu te rappelles ce film de Schumacher là, avec qui
j'ai
est bien hein, celui-là,
vu,
quoi.
Avec Kiefer Sutherland.
Avec Kiefer Sutherland, il y a Jason Patrick aussi, qui est vraiment bien, quoi. Et Corey Haim, donc, qui est mort, il avait pas 40 ans le mec, je crois. D'une overdose. Donc cette semaine également. Voilà. Bon, on va continuer dans, un petit peu dans le monde des morts, on va dire, quoi, avec la série inédite que propose Canal Plus à partir de lundi 20h45 et qui s'appelle Millennium. Attention, pas confondre avec le Millennium qui est la série de Chris Carter
oui.
Avec Lance Erickson. Ça a rien à voir. Non, là il s'agit de cette fameuse trilogie écrite au départ par Stieg Larsson, qui est d'ailleurs décédé en 2004. Auteur suédois qui a fait un carton avec ses bouquins, avec Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette et La reine dans le palais des courants d'air. 3 millions d'exemplaires rien qu'en Suède, 2,6 millions en France, plus de 10 millions dans le monde. Ça fait quand même pas mal de bouquins écoulés. Et le film a été un franc succès l'année dernière. Il y a 3 films. Au départ, il ne devait y avoir qu'un film de tournée, c'est-à-dire celui qui concernait les hommes qui n'aimaient pas les femmes, mais vu le succès, ils se sont dit ok, on va tourner les autres. Et au départ, ça devait être un film pour les salles de cinéma et le reste, les deux autres bouquins, donc en mini-série pour la télévision. Et vu le succès que ça a eu et tout, quoi, ils ont tourné l'ensemble, projeté en salle et également pour la télé. Et c'est le cas donc pour Canal Plus qui diffuse quand même vraiment en première exclusivité, hein, on va dire, par rapport à pas mal de pays, cette mini-série donc de 6 fois 90 minutes en fait. Chaque bouquin est séparé en deux parties et ça passe à partir de Canal Plus lundi 20h45, le premier épisode, donc cette première partie d'1h30 de Millennium de l'auteur suédois Stieg Larsson.
Et donc ce premier téléfilm en deux parties de...
C'est le film cinéma, mais en version longue. Où il y a un petit peu plus de choses, c'est un petit peu plus délié.
C'est des pavés,
Avec les mêmes.
Les bouquins, c'est des pavés déjà. C'est avec les mêmes acteurs. Non, c'est pas un remake.
C'est un remontage du film.
C'est un remontage, voilà, c'est ça.
Ah, d'accord.
Voilà.
Okay.
Non, parce que c'était prévu au départ comme ça. C'est-à-dire c'était prévu que le film au cinéma, de toute façon, allait pouvoir être montré après à la télé avec les suites. Était prévu pour la télé, déjà, qui est filmé déjà avec les acteurs, avec l'acteur et l'actrice principale. Vu le succès, ils ont décidé de tout tourner en salle, enfin de tout projeter en salle. Et évidemment, bien sûr, de vendre le produit télévision.
Sachant qu'il y avait un quatrième roman qui était prévu. En fait, il y en avait 10 qui étaient prévus, mais l'auteur d'origine était mort au quatrième.
Voilà. Bon, voilà.
Pendant qu'il produisait le quatrième et qu'il est hors de question de le terminer, d'ailleurs, c'est dans le testament. Il nous a fait une RG.
Donc en gros, la série a pas de fin.
Je n'en sais rien, je l'ai pas lu, je ne sais pas.
C'est-à-dire que c'est pas vraiment une série parce que c'est plus l'adaptation de différents styles. on va dire, selon les bouquins, hein, plutôt thriller dans le premier, film d'enquête dans le second, film de complot dans le troisième. Hein, donc c'est aussi ça qui est assez intéressant dans ces milliums. Moi, personnellement, je les ai pas lus non plus, mais bon, bah de l'avis de tous ceux qui ont lu ça, hein, ça des potes, ça le fait bien. Et même le film a eu d'ailleurs un franc succès lors de sa sortie l'an dernier. Millennium donc sur Canal+, c'est lundi à partir de 20h45. Dans un tout autre registre.
Ah bon, autre, je croyais que t'allais faire un break.
Non, vite fait, autre série inédite cette semaine, c'est sur TF6 vendredi prochain à 20h40, The Secret Life of an American Teenager. Waouh, là ça change radicalement.
Ça doit être fabuleux.
Ouais, alors c'est en fait l'histoire bateau pas tellement, enfin l'histoire moderne d'une jeune fille adolescente de 15 ans qui tombe enceinte dans une famille moyenne, bourgeoisie, on va dire. Hein, de l'Amérique blanche, donc voir comment ça se passe avec dans le rôle principal donc Shailene Woodley qu'on a vu déjà dès l'âge de 12 ans dans un épisode de FBI porté disparu où c'est elle justement qui disparaît et dans le rôle des parents il y aura Josie Bissette, Melrose Place et John Schneider, Duke of Hazard et Smallville, bien sûr, John Schneider. Ça passe donc sur TF6 à partir de vendredi 20h40.
Radio FMR, en supplément week-end numéro 232, il est 13h10 et du sport, tiens toujours la zapette sacrée. Mais là, hein?
Je disais, tu nous faisais une prog gouvernator aujourd'hui, c'est bien.
Oui, non, parce que j'ai pris le premier CD que j'avais sous la main, tu sais, 11h25, tu dois être en studio à 11h30, pas le choix. Hein. Tu me dis un truc de guerre. N'oubliez pas de balancer vos insultes supplémentweekend.fr. Vous pouvez nous contacter directement et tout le merdier, n'hésitez pas.
Là, avec la programmation que je vous ai concoctée, vous allez pouvoir le faire.
D'accord.
Ah, vous insultez.
Ouais, parce que là, j'ai décidé de vous faire des films avec des...
Cheetah. Non.
Des animaux.
Non, avec des Thomas et des Xavier dedans.
C'est n'importe quoi.
Alors, et devine qui est en plus grand nombre.
Faut noter les scores là.
Alors attends, qui est en plus
c'est
de Thomas.
Thomas.
Bah oui, merci.
Ça me semble évident, oui.
Alors ce soir sur TMC à 22h25, une femme d'honneur. Tu connais cette série, non? La série où avec Corinne Touzet en gendarme et tout quoi.
Non, je peux pas.
Là, tu regardes le générique, en plus c'est vachement sexe quoi, le générique.
Oui, tu parles.
Non mais je te jure. T'as l'espèce de la caméra qui suit, en fait tu vois Corinne Touzet qui revêt son uniforme de gendarme. Elle a juste la chemise, alors bon, elle met les épaulettes.
Elle a Rambo quoi. Truc.
Non, vachement bien. Puis t'as la caméra qui suit. Moi, je trouve ça hyper sexe.
Il y a
sexe,
quelqu'un
quoi.
Qui m'a fait remarquer. Et elle sait pas la mettre.
Ouais, mais c'est pas grave. Ça, on s'en fout, quoi. C'est Corinne Touzet, quoi. Et donc, dans cet épisode, Mission perdue, qui date de 97, il y a également Xavier Clément. Toujours ce soir sur France 4 à 20h35, l'homme du président de Michael Price et Eric Norris. Alors celui-là, il n'y en a pas, hein, de Xavier et de Thomas dedans, c'est le seul d'ailleurs. Et mais il y a Chuck Norris, t'étais pas là la semaine dernière,
oui, bon.
Mais bon, hein, c'est Chuck donc filmé là par Eric, c'est-à-dire son fils, hein, pas son frère Aaron. Il y a également Dylan Hill, Jennifer Tong et Stuart Whitman dans ce film qui passe donc ce soir sur France 4 à 20h35. Sur Canal Jimmy ce soir à 20h40, Autopsie saison 12, Le Jugement 1 et 2 avec Tom Ward et William Gamina. Et sur Polar à 21h, La Mort sur les Lèvres, un film allemand de Michael Robitz de 99 avec Thomas Kretschmann et Aglaya Sitovic.
Ah, mais il est connu, Thomas Kretschmann.
Ouais, Thomas Kretschmann, il est connu, tu vois, quoi. Demain sur France 4 à partir de 20h35, Forrest Gump de Robert Zemeckis avec Tom Hanks, Gary Sinise et Michael T. Williamson sur Canal Jimmy.
On va guetter les Tom Cruise. Alors attends, j'ai noté les Tom.
Ah, il y en a pas tant que ça. Sur Canal Jimmy. Alors celui-là non plus, il y a pas de ou parce que je sais pas traduire le chinois. De 2h30. Alors on remarquera que c'est peut-être une intention qui est fort louable de la part de Canal Jimmy. De le programmer comme ça, parce qu'on a eu l'exemple dimanche dernier, on a eu L'Exilé de Jonito, hein, en deuxième partie de soirée. Et là, en deuxième partie de soirée, c'est pareil, c'est encore de l'asiatique, et c'est encore de l'asiatique de qualité, on va dire, même si on remonte plus loin dans le temps, avec demain soir à 22h30, donc sur Canal Jimmy, Un seul bras les tue à tous, de Chang Che en 67. Et alors, ce film, il est connu quand même pour plusieurs raisons, parce que c'est quand même un des films qui a été l'inspirateur d'un des monuments du film d'arts martiaux et de sabre des années 90, The Blade de Choyark.
Oui, oui, ben c'est partie de la trilogie de The One-Armed Swordsman, voilà, de Chang Che, et donc le troisième volet, c'est La Rage du Tigre, qui est le plus connu des trois.
Voilà, avec Jimmy Wang Yu, Chao Chao, Wang Chung Tsun et Pan Yitse. C'est sur Canal Jimmy à 22h30, Un seul bras les tue à tous. Sur Ciné Cinéma Frisson, toujours demain soir à 20h40, Star Trek Nemesis de Stuart Baird avec toute la bande, hein, de Next Generation et Tom Hardy.
C'est pas l'un des meilleurs.
Sur Ciné Cinéma Star, non. 20h40, demain soir, Le Bûcher des Vanités de Brian De Palma avec, oui, Tom Hanks et Bruce Willis et Kim Cattrall. On a lundi sur TF1 à 22h25, Esprit Criminel saison 2 avec Mandy Patinkin et Thomas Gibson qui joue le rôle de Hutch. C'est le nouveau patron, une fois que Mandy Patinkin se tire, ah, de la saison, d'accord, 2, c'est Hutch qui devient le patron, en fait, de l'équipe.
Enfin, le profileur, c'est pas lui vraiment le patron, c'est l'autre.
Si, c'est lui. Et Mantena, il est vachement en retrait, du moins au début des saisons où il est présent, par rapport à Hutch qui vraiment dirige l'équipe. Sur TPS Star, lundi à 22h35, l'heure zéro de Pascal Thomas en 2007 avec Laura Smet, Daniel Darieux, Chiara Mastroianni, Melville Poupeau et François Morel. Et sur RTL9, lundi à 20h35, celui-là il est pas mal, Monsieur Quigley l'Australien de Simon Windsor avec Tom Selleck, Alan Rickman, Laura San Giacomo. Et sur TF6, lundi à 20h40, Smallville saison 8 avec Tom Welling. Sur Ciné Cinéma Star, toujours à 22h20, lundi, Les Copains d'abord de Laurence Kasdan avec Kevin Kline, Glenn Close, Tom Béranger et Jeff Goldblum. Et sur la chaîne XXL, à minuit, Les Hurlements de Lexi de Paul Thomas avec Lexi Marie, Jasmine Byrne et Alyssa Chase. Mardi sur TPS Star à 22h30, Ça se soigne de Laurent Chouchan en 2008 avec Thierry Lhermitte, Ferrier, Michel Vuillermoz, François Xavier de Maison.
Je le sentais celui-là.
Mardi sur la chaîne Polar, alors là ça n'a rien à voir avec vous deux, mais c'est ce dont on avait parlé la semaine dernière, la diffusion des Mathelm sur la chaîne Polar.
Oui.
Eh bien là tu as les quatre dans le désordre, c'est mardi prochain.
Pourquoi je suis pas surpris?
Avec tout d'abord, c'est-à-dire qu'ils avaient inversé, ils en avaient inversé deux au départ, et là ils passent le dernier de la liste. Matt Helm règle son compte, donc mardi prochain à 21h, le film de Carlson avec Dean Martin, Elke Sommer, aïe aïe aïe, Sharon Tate, oh là là, et Nancy Kwan. Et à 22h45, on a le premier, c'est-à-dire Matt Helm, agent très spécial, avec Stella Stevens dans le premier, donc Carlson également. À minuit 30, Bien joué Matt Helm, celui avec Carl Malden de Henry Levy en 66. Et à 2h15 du matin, Matt Helm traqué de Henry Levy en 67. Voilà, donc tout ça, c'est mardi prochain sur la chaîne Polar, hein, toute la série des Matt Helm. Et mardi encore sur Orange Ciné Choc. Celui-là non plus, vous y êtes pas dedans, mais celui-là, tu l'as programmé d'ailleurs en sortie vidéo. C'est Sukiyaki Western Django de Takashi Miike avec Hideaki Itto, qui est magnifique, excellent, grandiose. Mais bon, c'est sur Orange Cinéchoc. Mercredi, sur NT1 à 20h35, Sniper 3 de PG PC avec, allez, Tom Béranger, ouais, Byron Mann, ouais, Troy Winbush, ouais. TF6 vous propose à 23h45 Légende sanguinaire de Trip Reed en 2005 avec Robert Beltran, Jeff Fahey et Chase Masterson. Non, vous y êtes pas. Mais il y a Jeff Fahey dedans, alors obligé quoi. Sur Ciné Cinéma Premier à 20h40, toujours mercredi, La guerre selon Charlie Wilson de Mike Nichols avec Tom Hanks et Julia Roberts. Jeudi sur TF1 dans Section de recherche saison 2, l'épisode c'est Camping avec Xavier Deluc et Jean-Pascal Lacoste. Jean-Pascal, rappelle-toi, Jean-Pascal.
L'agitateur.
Si, JP.
Ah, il s'appelle Lacoste en plus.
Oui. Mais oui.
Il te l'a pas dit quand tu l'as croisé?
Bah j'ai pas vu moi, hein. Je suis arrivé après moi.
Ah
bah
d'accord.
Voilà, privé joke, merci.
Enfin ouais, faut...
jeudi toujours.
Enfin côtoyer le vide, tu sais, c'est quelque chose de fascinant, hein. C'est... Je le revendique.
Jeudi toujours sur TPS Star à 20h40, Il y a longtemps que je t'aime de Philippe Claudel avec Christine Scott Thomas, Elsa Zilberstein et Serge Azanavicius sur Ciné Cinéma Star. Tu l'as, tu le voulais, tu l'as. 22h35, Cocktail de Roger Donaldson avec Tom Cruise. Et sur Disney Ciné Magic à 22h30, toujours jeudi prochain, À travers les plaines sauvages de Burt Kennedy avec Bruce Boxleitner, Thomas Wilson Brown et Lisa McFarlane. Vendredi, enfin, sur NT1 à 20h35, Menace sur la Navy de David Douglas en 2002 avec Stephen Ramsey, Robert Miano et Joseph J. Tomaska. Sur
Sci-Fi. Il va pas y arriver jusqu'au bout.
Sur Sci-Fi à 20h45, Drôle de fantôme de Ron Underwood en 93 avec Robert Downey Jr., Charles Grodin, Alfred Woodard, Kyra Sedgwick et Tom Sizemore. Sur Ciné Cinéma Star à 21h, Hitcher de Robert Harmon, comme quoi tu vois, hein, tu fais du bon film et tout, puis après tu peux te recycler à la télé. Tu peux faire des bons téléfilms, tu vois, les trucs qu'il a sortis avec Tom Selleck, là, c'est Robert Harmon, c'est le même. Hein, oui, 20 ans après, mais pourtant, bon, bah, c'est de la balle, hein, ça, le mec s'est filmé.
Merde, comment ça s'appelle, Mince.
Jesse Stone, voilà. Jesse Stone, voilà.
Grandiose.
Ouais, ouais, non, là, mais c'est bien foutu, bien filmé et tout, quoi. Alors, ça, c'est le Witcher original, hein, pas l'espèce de remake, là. Qui
pas avec celui avec Sean Bean.
Non, non, c'est celui avec Rutger Hauer et Chris Thomas Howell
et Jennifer Jason Leigh,
hein, bien sûr. Et suivi à 22h35 de Under the Cherry Moon, qui est un film de Prince. En 86 avec Jérôme Benton, Christine Scott Thomas et Steven Berkoff. Tu demandes ce qu'il vient foutre là-dedans, Steven Berkoff, mais bon, voilà, c'était comme ça, c'était l'époque. Et je termine avec un film où vous êtes pas dedans, mais c'est normal, c'est le Peplum qui termine cette programmation sur Cinéfix le vendredi soir à 21h, Hercule contre les tyrans de Babylone, avec Domenico Paolella en 64, avec Peter Lupus dans le rôle d'Hercule.
Ah
Peter
bah tiens, Lupus, on y revient.
On y revient, tu vois, comme
ça. Impossible.
Hein. L'univers est courbe, Einsteinien, mon gars.
Et d'ailleurs, ce matin, sur le blog 720 lignes, il y a une bio de Peter Lupus. Je savais pas qu'en fait, ce qu'il avait mis au banc de l'industrie de la télévision, c'est qu'il avait posé nu dans Playmate.
Oh là là.
Ah, toutes ces tablettes de chocolat et tout ça. Ouh,
super. On fait le diabète.
Thomas, s'il te plaît. Est-ce que tu peux faire le résumé pour ceux qui sont tournés la radio un petit peu trop tard ou ceux qui sont arrivés sur le stream un petit peu à la bourre, voire...
qui ont trop dormi? Alors oui, nous avions aujourd'hui du Jazzman Inconnu, de la Bérésina, Barbe Bleue, un enlevage de stickers, un What If à Gogo, du Silence des Chevreaux, une page spéciale Monde des Morts avec des nécros et des téléfilms, des films avec Xavier Des Thomas mais sans des on ne dira pas le prénom du sport aujourd'hui, et on a même parlé de Einstein.
Oh, super, trop génial, dans un dossier non classé, vous avez manqué tout ça. Heureusement, grâce au pouvoir parapsychologique de la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver nos chroniques écrites, comme par exemple les chroniques BD du village, la BD érotique, The Nazel Washington Diagramme, Les Princes d'Ambre, Félix ou le Grand Nom et plein d'autres choses. Répondre à des questions stupides, des quiz stupides, voire nous poser des questions et on y répondra à l'antenne et peut-être qu'on fera gagner des trucs, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web suppléantweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et on continue 24h sur 24 sur radio-fmr.net. Cet après-midi en dédicace à Toulouse, François Duprat pour Il y a du monde au Portillon, c'est en avant-première, c'est aux éditions Carabas et c'est à la librairie Terre de Légende. Et dans le prochain épisode du supplément week-end, un geek dépressif. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, et de suite, il y a Cardus pour 13h23 minutes. A fini en avance. Ouf. Pourtant, il y avait de la prog. Hein.